Nous allons commencer ce temps de méditation par un résumé, un parcours ou même quelques lectures extraits du premier livre de la Bible, qui est la Genèse, et où nous allons voir qu'après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les met dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il fait pousser toutes sortes d'arbres bons et à manger, et au cœur même de ce jardin, il va placer deux arbres particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Dans Genèse chapitre 2, verset 14, nous lisons « Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Au chapitre 3 et au verset 4, nous lisons ceci. Le serpent dit à la femme, « Le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance, vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » L'homme et la femme vont manger ce fruit défendu. Et au chapitre 3, verset 22, le Seigneur dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. Verset 24, après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kéroubims et l'épée flamboyante qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de la vie. En définitive, tout s'est passé comme si cette transgression, c'est-à-dire le péché, la désobéissance de l'homme, avait interrompu le bon déroulement des plans conçus par le Créateur. On dirait que la faute a fait avorter les plans divins. Nous ne saurons jamais, en tout cas pas pendant le temps de notre chair, quelle était la nature de ces plans de Dieu. Néanmoins, il est permis de dire qu'avant la désobéissance, quelque chose est d'ores et déjà amorcé. Il y avait eu déjà le début d'une mise à exécution. Écoutons trois versets encore de cette Genèse. Chapitre 26. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent. Pour qu'il domine. Verset 28, Dieu créa les humains à son image, à l'image de Dieu, et leur dit, remplissez la terre pour qu'il procrée. Chapitre 2, 19, Dieu amena vers l'homme tous les animaux et tous les oiseaux du ciel pour voir comment il les appellerait, afin que, c'est un but, afin que tous les êtres vivants portent le nom dont l'homme les appellerait. Ainsi, nous voyons qu'avant le péché, des amorces de fonctions sont d'ores et déjà mises en place. La créature, œuvre de Dieu, la créature, image de Dieu, est programmée pour dominer, pour procréer et pour nommer. Nommer, c'est-à-dire créer des symboles appropriés et signifiants. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ce matin, alors que nous sommes ici rassemblés, nous sommes encore et toujours les héritiers de ce patrimoine-là. Nous sommes tout à fait aptes à dominer, à procréer et à nommer. Avant d'aller plus loin, soulignons simplement le fait que ces deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle, étaient placés au cœur même de l'espace où cet homme allait avoir à vivre et à évoluer. Dit autrement, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie étaient à portée de main, pas inaccessible, à portée de main. Or, il va se passer quelque chose d'extraordinaire au niveau de ce que l'homme pouvait éprouver, quelque chose qu'il n'avait jamais encore ressenti. Chapitre 3, verset 10. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est ici la première fois que ce mot apparaît dans la Bible. La peur comme un héritage. De telle sorte que ce matin, alors que nous sommes ici rassemblés, nous sommes encore et toujours les héritiers de ce patrimoine-là aussi. Pour résumer ce qui vient d'être dit, tout s'est passé. Alors, comme si la suite allait être totalement impactée, modelée, orientée, programmée pour le devenir et la destinée de l'humanité. Les fondamentaux de la carte génétique sont désormais en place. Grand A, du fait de Dieu, petit 1, dominé, petit 2, procréé, petit 3, nommé, grand B, du fait de l'homme, se laisser influencer par la tentation, transgresser et avoir peur. Une question peut alors être posée. Puisque tout ce qui s'est passé alors nous a définitivement programmés, est-ce que ce geste transgressif de l'homme pourrait lui aussi être porteur d'autres conséquences définitives? Et si oui, lesquelles? Encore plus simplement posé, nous pourrions dire, serions-nous depuis ce geste, les héritiers obligés de la connaissance? C'est une approche très originale, n'est-ce pas, que de considérer, d'aborder l'idée même de connaissance comme étant une sorte d'astreinte perpétuelle ou de condamnation. La réponse à cette question se dessine d'elle-même. Il faut, nous devons, amasser la connaissance de façon exponentielle pour pouvoir dans nos vies efficacement faire la distinction entre ce qui relève du bien et ce qui relève du mal. Mais chose extraordinaire, c'est qu'en désobéissant pour consommer du fruit de cet arbre, l'homme, nous nous sommes mis nous-mêmes sous le joug de la loi, car le principe de connaissance du bien et du mal induit, implique le principe même de la loi. Gardons, si vous voulez bien, en mémoire, la présence de ces deux arbres placés dans le jardin à portée de main. Et nous allons essayer de montrer qu'à chaque arbre correspond une clé. Une clé. Le geste qui consiste à consommer ce fruit va donc orienter toute l'histoire comportementale de l'humanité, son histoire sociale, cognitive, ses principes d'acquisition de savoir, de jugement, ses aptitudes à choisir, à décider de garder ou non une infinité de données. Sauf que, ce processus porte en lui quelque chose d'inabouti, de limité. Pour employer une image simple, disons qu'il faut, pour pouvoir accéder au savoir, à la connaissance, au jugement, il faut obligatoirement utiliser une clé. Sans cette clé, pas de connaissance, pas de savoir. Le problème, cette clé, c'est qu'elle s'use inexorablement, elle s'émousse, jusqu'à laisser définitivement hors de portée certains accès. Cette clé, elle porte un nom. Ce mot, c'est un verbe, et ce verbe, c'est le verbe comprendre. Le verbe comprendre. Tâchons d'y voir un peu plus clair. Depuis que nous existons, tout n'est rendu accessible à notre entendement qu'à la condition préalable d'être compris. Je dois d'abord comprendre pour pouvoir apprendre. Je ne peux pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mal sans passer par un temps préalable de compréhension. Cet usage obligatoire de la clé « comprendre » comporte en soi une sorte de condamnation. Pourquoi ? Eh bien parce que, en acceptant la proposition du serpent, Adam et Ève ont réduit le champ des possibles aux seules limites du comprendre. Très vite, nous qualifions d'inconcevable ce que nous sommes inaptes à comprendre. Avec le temps, nous avons fini aussi par nous convaincre que la masse du savoir était sans limite et que rien ne pouvait dépasser la connaissance. Parole du serpent dans Genèse 3, verset 5, « Vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » Parole de Dieu dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Eh oui, comprendre est une clé qui ne fonctionne pas indéfiniment. Elle se bloque facilement et à un moment ou à l'autre, elle finit par devenir obsolète. Que faire alors ? Que faire ? Vous connaissez tous ce magnifique verset de la Bible. Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Dieu, dans son amour pour sa créature, a élaboré un second plan pour abolir l'échec du premier. En effet, le Dieu souverain à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire va mettre en place un protocole de rédemption. Notre Créateur va nous proposer un nouveau chemin, une nouvelle vérité et une nouvelle vie en la présence, en la personne de son Fils bien-aimé. C'est par Christ fait homme, par sa naissance, sa mort sur la croix et sa résurrection, que Dieu remet à notre portée le deuxième arbre autrefois confisqué. En Christ, par Christ, dans Christ, l'arbre de la vie éternelle, le pain de vie, peut enfin être consommé. Prenez et mangez, nous dit Jésus. Quelle grâce! Tout cela est magnifique et enthousiasmant, n'est-ce pas ? Ah ben oui, mais voilà, il y a un problème. Ah, et c'est quoi ce problème ? Ah ben il est insoluble. Ah oui, d'accord, mais c'est quoi ? Eh bien, il vient de ce que la clé du comprendre est désormais inutilisable. Elle est plus qu'obsolète, elle est inappropriée. Voici ce que dit l'apôtre Paul à trois reprises dans sa première épître aux Corinthiens, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Verset 21, c'est par la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Folie, folie, folie! Or, qu'appelons-nous folie ? Sinon l'inconcevable, sinon ce que nous ne parvenons pas à comprendre. En effet, rien de tout ce que permet la clé du comprendre ne peut nous sauver ni ne peut nous délivrer de la mort. Ni la compréhension des choses du monde, ni les choses de l'art, ni de la science, ni la philosophie, ni la théologie ne peuvent nous exonérer du salaire du péché. À chaque arbre, sa clé. À chaque arbre, sa clé. En effet, mes amis, il n'y a pas d'autre possibilité, d'autre solution que l'utilisation d'une autre clé. Une clé qui réduirait à néant les possibilités limitées de la précédente. Mais alors, quelle est cette nouvelle clé? La réponse se trouve dans un des versets que nous achevons juste de lire. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. C'est par la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Tiens, voilà un autre verbe. Comprendre, c'est la clé de la connaissance et de la loi. Croire, c'est la clé de la grâce et du salut. Au chapitre 11 et au verset 40 de l'évangile de Jean, Jésus dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il est impossible dans cette parole de changer, de remplacer le verbe croire par le verbe comprendre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et pas si tu comprends. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31, nous lisons « Le geôlier les amena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Croire, c'est la liberté d'admettre et d'accepter sans comprendre. Croire, c'est accueillir la grâce, se saisir du salut que nous apporte le Christ. Ce n'est plus nous qui tendons la main pour consommer le fruit d'un arbre interdit. Non, désormais nous sommes au bénéfice de la livraison à domicile. En effet, Jésus se tient à ma porte, à ta porte, et il frappe. Si tu entends son appel et qu'avec ta nouvelle clé, tu lui ouvres ta porte, la porte de ton cœur, il entrera à lui le pain de vie et prendra place à tes côtés. À chaque arbre, sa clé. À l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la clé comprendre. À l'arbre de la vie éternelle, la clé croire. Soulignons une dernière chose avant d'en arriver à la conclusion. Nous avons bien noté que comprendre et croire étaient des clés distinctes. Et une de leurs principales différences est la suivante. La clé comprendre fonctionne à sec. À l'inverse, il en va tout autrement de la clé croire. En effet, pour être opérationnel et ne jamais s'user, il faut que cette deuxième clé soit livrée et utilisée avec un produit d'entretien. Allons bon. Et c'est quoi ce dégrippant miracle? Eh bien, ce dégrippant miracle, c'est l'amour. C'est l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Question. Allez, pour les connaisseurs de la Bible. Question. Vous jouez, hein, ne me laissez pas seul. De mémoire, à votre avis, quel est l'autre thème que l'apôtre Paul met en parallèle direct avec l'amour dans le même chapitre. Quel deuxième thème confronte-t-il avec cet amour qui croit tout? L'espérance, presque, mais non. Bravo! Réponse au verset 9. C'est incroyable, ça. La connaissance sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, Quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Aujourd'hui, je connais partiellement. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Conclusion. Où en suis-je ce matin ? Suis-je totalement assujetti à mon capital du savoir ? Si tel est le cas, j'ai peut-être acquis quelque gloire aux yeux des hommes, mais je reste perdu aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi, ça ? Être perdu aux yeux de Dieu ? Cela signifie clairement qu'il n'y aura pour moi pas d'autre issue, pas d'autre solution que la mort et le retour à la poussière. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » En parlant d'enfants, si vous voyez la tête de mes petits-enfants quand on leur dit que c'est l'heure d'aller faire les devoirs, quelle condamnation ! Encore apprendre ! Encore comprendre ! Mais, si vous voyez chez ces mêmes petits leur regard quand on leur raconte une histoire extraordinaire, leurs yeux brillent, pétillent de toute la joie de croire. Dernière citation biblique. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus dit à l'homme, « Tout est possible à celui qui comprend. » Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Moi aussi, ce matin, je veux te dire, Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Amen.